suis en fume avec ma team. La vie c'est pas magique, mais faudrait savoir la prendre du bon côté. Y'a plus tragique, c'est vrai, la vérité c'est que je suis paumé. Je me suis trop laissé aller, laissé tomber. Là c'est l'été, mais je suis lassé. Entre là c'est son, mais là c'est fait, je m'ai lancé sans métal. Et pas magique, mais faudrait savoir la prendre du bon côté. Y'a plus tragique, c'est vrai, la vérité c'est que je suis paumé. Je me suis trop laissé aller, laissé tomber. Là c'est l'été, mais je suis lassé. Entre là c'est son, mais là c'est fait, je m'ai lancé sans métal.
À Paris, à Madrid, 15h30, à New Delhi. Bonjour à tous.
Karine Bellicha.
À la une, est-ce la fin du mouvement des cafards en Inde? Les étudiants demandaient la démission du ministre de l'Éducation. Au bout de 6 jours de contestation, ils viennent de l'obtenir. Notre correspondant Abdoulaye Rally est avec nous dès le début de ce journal. Plus de 170 000 personnes ont dû fuir leur domicile. En Espagne comme en France, les méga-feux progressent toujours. Pire incendie de l'histoire de la région de Madrid. La priorité est de sauver des vies, dit le Premier ministre espagnol. Donald Trump essaye toujours de sortir de l'enlisement en Iran. Il prolonge le conflit, mais peine à trouver une issue, alors qu'un nouveau front s'embrase entre l'Arabie Saoudite et les Houthis du Yémen. Les étudiants ont donc eu gain de cause en Inde. Le ministre de l'Éducation vient d'annoncer sa démission. C'est ce qu'il demandait depuis une semaine, dénonçant des fraudes lors des examens universitaires. Abdoulaye Rally, vous êtes en direct de New Delhi. Abdoulaye, c'est une victoire majeure remportée par les jeunes indiens et notamment par ce surprenant mouvement des cafards.
Oui, c'est un basculement qui s'explique par la puissance en ce moment de la rue indienne qui a fait
plier un pouvoir réputé intouchable. L'initiative vient de ce parti, le Parti des Cafards, un mouvement parodique né sur les réseaux sociaux en mai dernier. Fondé par un jeune de 30 ans, ce collectif de la génération Z a pris une ampleur nationale phénoménale en ce moment, ici, et depuis sa première manifestation, le 6 juin dernier, à New Delhi, suite au fuite concours de médecine. Aujourd'hui, ce mouvement fait tomber un puissant ministre du BJP. Le leader de l'opposition, Rahul Gandhi, salue une mobilisation exceptionnelle de la jeunesse indienne et concentre désormais ses tirs sur Narendra Modi, dont tout le monde attend la réaction. De son côté, le Cockroach Janata Party, donc le parti des cafards, savoure sa victoire, mais maintient la pression. Le mouvement refuse de lever le camp et réclame des excuses nationales désormais du Premier ministre indien Narendra Modi aux étudiants blessés durant les manifs.
Abdullah Erali en direct de New Delhi. Sur le front des incendies à présent, Madrid est cernée par les feux. L'odeur de brûlé est parvenue jusqu'aux rues du centre-ville de la capitale espagnole. La situation se dégrade encore avec des vents irréguliers qui changent de direction. Plus de 60 000 personnes ont dû rester confinées chez elles ou ont fui. Parmi elles, Maria, qui a dû quitter son domicile à Colmenar del Arroyo, une ville à l'ouest de Madrid. Écoutez son témoignage.
Je n'ai même pas eu le temps de réagir. J'avais travaillé de nuit, donc je dormais le matin. Je n'ai même pas emmené les enfants au centre de loisirs parce qu'il y avait déjà beaucoup de fumée et des braises tombaient de partout. Et puis d'un seul coup, mon téléphone s'est mis à sonner très fort. C'était l'ordre d'évacuation. Nous n'avons pas eu le temps de prendre quoi que ce soit. Nous avons juste pris notre petit chat et nos deux cochons d'Inde. J'ai dit aux enfants de préparer rapidement quelques affaires dans leur sac à dos et c'est tout.
Et ya está.
Propos recueillis par Juan Gascon, le correspondant de la rédaction en langue espagnole de RFI en Espagne. Les autorités ont décrété l'état d'urgence pour tenter de faire face à ce qui est déjà le pire incendie de l'histoire de la région. L'objectif des pompiers est d'empêcher la fusion des brasiers de la capitale avec ceux de la province limitrophe de Castille et León, qui ont déjà ravagé 25 000 hectares en deux jours, dévastant une campagne desséchée. Le Premier ministre espagnol participe à une réunion d'urgence dans un village au cœur de la région sinistrée. Pedro Sanchez prévient que les incendies sont loin d'être maîtrisés, même s'il existe une fenêtre d'opportunité ce week-end.
Si quisiera trasladarle a los vecinos y vecinas de las zonas afectadas que nuestra prioridad.
Je tiens à assurer les habitants des zones touchées que notre priorité absolue, nos pensées et notre objectif sont de sauver leur vie, d'assurer leur sécurité et la protection des zones habitées, et enfin la lutte contre les incendies. Les prochaines heures s'annoncent difficiles, notamment en raison de la baisse des températures. Nous ignorons cependant l'évolution et l'intensité des vents, ainsi que la possibilité d'orages secs liés à ces incendies. Ce qui est certain en revanche, c'est que nous disposons d'une opportunité ce week-end pour combattre les incendies, et c'est à cela que nous consacrerons une part importante de nos ressources.
Lo que vamos a dedicar y a destinar una buena parte de nuestros recursos.
Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez de l'autre côté de la frontière. En France, plus de 140 000 personnes ont dû quitter leur domicile dans la région du Sud-Ouest. Le Premier ministre a demandé aux armées de déployer dès aujourd'hui un avion de transport militaire A400M, un appareil qui peut être équipé d'un kit de largage permettant de déverser 20 000 tonnes de produits retardant pour tenter de contenir les feux. Plusieurs communes sont en cours d'évacuation près de Bordeaux. La très touristique presqu'île française du Cap Ferret est désormais totalement vidée de ses résidents. Les flammes ont parcouru plus de 22 000 hectares, soit le double de la superficie de Paris. 2026 bat déjà le record de surface brûlée en France établi il y a 4 ans. Pour la première fois en deux semaines, l'armée américaine n'a pas annoncé de frappe contre l'Iran la nuit dernière. Pourtant, face à l'enlisement du conflit, Donald Trump envisage de renforcer encore son offensive, tandis que Téhéran continue de frapper les installations américaines dans la région. 5 mois après le début d'un conflit qui ne devait durer que quelques jours, les États-Unis cherchent une issue, Guilhem Delteil.
Si mettre fin au programme nucléaire iranien était l'objectif affiché des États-Unis en entrant en guerre le 28 février dernier, l'administration Trump a désormais une nouvelle priorité, rouvrir le détroit d'Ormuz, pourtant ouvert avant le début de la guerre. Agnès Levallois est la présidente de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient.
Ce qui est frappant dans cette séquence, c'est qu'en fait les Américains ont donné une arme
aux Iraniens, qui est l'arme du détroit d'Ormuz, et que finalement aujourd'hui, pour les Iraniens, cette arme paraît beaucoup plus efficace que ne pouvait l'être la question du nucléaire, et que Trump semble un peu pris dans le piège de ce qu'il a provoqué.
Un piège d'autant plus compliqué pour le président états-unien que l'accord du mois de juin a été froidement accueilli à Washington. Agnès Levallois.
Les critiques ont été très fortes à l'égard de cet accord de Trump, estimant qu'il avait beaucoup trop lâché aux Iraniens. Du coup, les Américains entendent reprendre la main pour montrer qu'ils ne sont pas faibles et que c'est la première puissance au monde.
Mais prolonger le conflit a aussi un coût, celui des opérations, celui du nombre de soldats tués et un impact sur l'économie mondiale et donc aussi états-unienne. La question pour Donald Trump est de savoir combien de temps il pourra tenir ce rapport de force.
Et ce conflit s'enlise tandis qu'un nouveau front est en train de s'embraser de l'autre côté de la péninsule arabique, entre l'Arabie Saoudite et les rebelles yéménites Houthis qui bloquent la navigation en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Ses alliés de Téhéran ont revendiqué une attaque de missiles contre la ville saoudienne de Jazan après une frappe de Riyad sur la ville yéménite d'Odeida. Secouristes et proches des victimes ont arrêté le travail de recherche hier au Venezuela pour observer une minute de silence, un mois jour pour jour après le double séisme qui a fait plus de 5500 morts. Plus de 20 000 personnes vivent toujours dans des refuges, des conditions très précaires pour des sinistrés qui ont parfois tout perdu. Le reportage d'Alice Campagnole.
Sur le port de La Guaira, en face de leurs immeubles au bord de l'effondrement, les habitants ont monté un compte fortune et c'est l'heure du déjeuner pour les plus jeunes.
Je cuisine pour 3 tantes, je veux dire pour 3 familles. Comme ça, on mutualise les coûts.
Ils sont 137 à vivre ici, sans aide du gouvernement. Tout ce que les sinistrés ont reçu vient de particuliers ou d'ONG, comme l'expliquait Osmel.
On est installé ici depuis le jour du tremblement de terre, mais attention, on n'a pas toujours été aussi bien installé. Au début, avec la pluie, c'était vraiment le chaos. Et puis, il y a les Américains qui sont venus. Aucun d'entre eux ne parlait espagnol. Ils ont pris des mesures et le lendemain, ils ont installé ces grandes tentes.
Plus d'une centaine de camps sont éparpillés sur tout le territoire, certains organisés par les autorités et d'autres improvisés, comme celui-ci. Mais ici, les habitants ne quitteraient les lieux pour rien au monde, comme l'explique Boris, père de 3 enfants.
Le peu de choses qui me restent là-bas est dans mon appartement. Je mets où tout ça? C'est pour ça que je vais nulle part. Déjà, je n'ai plus de maison. Le peu qui me reste, je vais me le faire voler.
Un mois après le tremblement de terre, les sinistrés attendent des réponses de leurs dirigeants. Quand et où seront-ils relogés? Alice Campagnole, Caracas, RFI.
Un mot du Tour de France cycliste pour finir. Au lendemain d'une première ascension, les coureurs s'apprêtent à grimper à nouveau l'Alpe d'Huez. C'est l'avant-dernière étape du Tour avant l'arrivée à Paris et ce sera demain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.
Écoute bien, visiteur.
Écoute attentivement ce que je vais te dire.
Vous écoutez Principe Actif, le mix des cultures.
Je sais que tu m'entends à présent, alors écoute-moi.
À Évreux, 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9, et partout ailleurs sur principeactif.net.
Et là, on va vous balancer de la musique. C'est parti, les gars.
na wahala. And naturally just makes me wonder. Her breast be like you don't love Maria. I say everything in the correct order. She said, love me, tell me don't stop. She said, squeeze me now, now. She said, love me, tell me don't stop. She said, squeeze me now, now. Bang, 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 I just did go.
Qu'une naissance à votre avis, mais on se laisse faire, voilà tout, et la vie vous étreint. Et alors, c'est peut-être dans la chambre d'une clinique, entre deux gares par exemple, la clinique qui avec les ans va disparaître, comme le boulevard qui la porte, le boulevard qui est resté ouvert au vent de la guerre et du commerce. Sentiez-vous que vous êtes né dans une chambre? Moi non. Mais entre deux gares à Saoui, l'espace des boulevards, l'espace des exodes, l'espace où on se retrouve sur l'ailleurs, des avenues et du monde au hasard. Accueillis par les roseaux, accueillis par le présent, partout se perd sans racine. Accueillis par les arbres couchés sur bleu de fleurs, sur quelques herbages saufs, encore saufs. Accueillis par des chevaux riches en crinière, par des violons, par des puits à moutons. Ah, salut les fuites, ô fuite du salut. On vit, nos sacs sont pleins de joie, de bondissante lenteur et de tristesse. Les paysans, eux, respirent encore à l'ancienne. Peuvent s'enfler, s'emplir du souffle qu'on lui donne, comme rayon de vent vivant, coup, baguette de la magie, de la vie, car la vie est un songe, mais le rêve est bien vrai. Cette vie est un conte de quelque inconnu qu'on attend. J'ai, en d'autres vies, tant espéré de l'inconnu. Car la vie est un songe. Mais le rêve est bien vrai. On vit. Nos sacs sont pleins de joie, de bondissante lenteur et de tristesse. J'ai, en d'autres vies, tant espéré de de l'inconnu. Ma fée, ma fiancée.
Compliquée, je sens ton souffle qui me frôle le cou, un pistolet.